Voilà, je vous propose d'introduire ces moments par un témoignage. Petite vidéo, donc.
Extrémistes qui, s'ils ne peuvent empêcher les chrétiens d'adorer Jésus, sont alors résolus à les exterminer. C'est un état d'urgence absolu, et en même temps, ce n'est pas une nouveauté. 2000 ans en arrière, Jésus nous avait déjà avertis. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Cette persécution, Aliba l'a vécue. C'est un chrétien nigérien, et il est toujours menacé de mort par le groupe terroriste Boko Haram. Puisque, pour sa sécurité, on ne peut vous montrer son visage, voici son histoire, mise en scène par des acteurs.
En pleine nuit, nous avons entendu un premier tir. Mon père nous a ordonné de fuir. Moi, mes frères et mes sœurs, nous nous sommes mis à courir à toute vitesse. Nous avons attendu le lever du soleil pour revenir dans notre village. En entrant, tout était silencieux. En approchant de notre maison, j'ai vu trois corps au sol. J'ai reconnu les habits de l'un d'entre eux. C'était mon père. Je me suis agenouillé près de lui et j'ai crié. Puis j'ai couru à l'intérieur, inquiet pour ma grand-mère. Elle était en vie. Elle pleurait amèrement. Elle m'a tout raconté. Boko Haram est entré dans la maison. Ils ont saisi ton père. On demandait à quelqu'un derrière eux. Est-ce bien lui que nous recherchons? La personne a répondu oui. Ils ont traîné ton père dehors. Ils lui ont demandé s'il était musulman ou chrétien. Il a répondu chrétien. Ils l'ont tué. Quelques semaines après l'attaque, Boko Haram envoie une liste dans notre village. Une liste d'autres personnes qu'ils allaient venir abattre. Ma famille et moi avons dû tout abandonner et quitter notre village. J'étais rempli de colère et de haine. J'en voulais à Dieu. J'étais résolu à venger la mort de mon père.
Aliba voulait se venger de l'homme qui avait dénoncé son père quand Boko Haram a attaqué. Portes ouvertes l'a invité, lui et ses frères et sœurs, dans un centre d'aide post-traumatique pour qu'il puisse y recevoir soins et conseils.
Avant ma venue ici, j'avais décidé de ne jamais pardonner. J'étais obsédé par la vengeance. Mais maintenant, j'ai trouvé la paix et l'espoir. J'ai appris à pardonner, à tout laisser au pied de la croix. Et si un jour je dois être tué comme mon père, qu'il en soit ainsi.
We want to see you like a mighty ocean wind. Lord, we want to dwell under the shadow of your wings. So please. blow like a mighty wind. Spirit of victory, just go out of with your wind.
Le thème de ce dimanche de l'Église persécutée, c'est de l'amertume à la joie, parce que ce sont deux réalités que les chrétiens vivent, que vous vivez, que nous vivons. Nous pouvons vivre les deux. Ce sont des réalités. Et nous allons voir effectivement comment il est possible de passer de l'amertume à la joie pour nous, chrétiens, parce qu'il est possible, effectivement, de passer de l'un à l'autre. Et alors, voilà, porte ouverte, consacre un dimanche par an à l'Église persécutée pour nous rappeler que y a des chrétiens qui souffrent, chacun souffre à son niveau, et nous qui sommes dans un pays relativement encore tranquille, même s'il y a quand même d'autres persécutions, qui sont parfois plus sournoises, parfois, c'est pour nous rappeler aussi que notre rôle est de prier pour eux, et ils attendent nos prières, voilà. Alors, on va effectivement voir ça de plus près. Chaque année, Porte Ouverte publie un index de la persécution qui est officiel, qui a été même mis devant les politiques. Et donc en rouge, ce sont là où la persécution est la plus forte. Et vous voyez que sur la carte, sur le globe, il y a peu d'endroits où il n'y a pas de persécution. Et l'Afrique en est... L'Afrique subsaharienne est très touchée, notamment avec tout ce qui est les persécutions de Boko Haram et d'autres organismes terroristes. Alors c'est une réalité, et donc vous pouvez demander l'index de persécution. Chaque année, il sort, et on voit comme ça les pays qui sont les plus... des pays les plus touchés aux pays les moins touchés. Actuellement, celui qui a la palme, on peut dire, c'est toujours la Corée du Nord. Et puis il y en a d'autres aussi. Il y en a d'autres. La souffrance et leur situation nous met immanquablement devant une réalité qui est la souffrance vécue par les chrétiens. Et donc ça nous met inévitablement devant cette question de la souffrance, aussi bien pour les chrétiens que pour les non-chrétiens, et aussi pour le chrétien. C'est parce que, voilà, bien sûr, 360 millions de chrétiens dans le monde sont aujourd'hui victimes de discriminations fortes et de toutes sortes de violences. 360 millions de chrétiens dans le monde. Donc à cause de leur foi, ils sont persécutés. Et la Bible, elle ne manque pas d'exemples de personnes qui ont souffert pour le nom de Dieu. On pense bien sûr à Job, le livre de Job. Job qui a tout perdu. Il a perdu sa famille, il a perdu sa santé, il a perdu sa fortune. On pense à la mort atroce d'Étienne, Étienne qui a été lapidé à cause de sa foi. Dieu ne l'a pas empêché. On pense bien sûr à Paul, qui a été battu, qui a été lapidé, qui a été emprisonné à cause de sa foi. Donc ce sont des réalités que nos pères ont vécues, que nous-mêmes, nous vivons à différents niveaux. Vous avez peut-être déjà vécu, plus ou moins fort, et que d'autres vivent très fortement dans ces pays. Alors nous sommes tous concernés par la souffrance. Nous ne sommes pas dans un monde joli, et puis nous sommes tous confrontés à la souffrance, à différents niveaux. Ça peut être la perte d'un proche, le deuil, donc ça peut être la maladie, ça peut être un divorce, une séparation douloureuse, ça peut être des enfants qui s'éloignent de la foi, ils ont été instruits et puis on les voit s'éloigner et c'est douloureux. Ça peut être le rejet, de se sentir rejeté, ça peut être les conflits aussi. C'est impossible d'éviter la souffrance. C'est une réalité, et il faut. Et ce dimanche va nous aider à la regarder en face. Et comment justement y faire face pour passer de l'amertume à la joie, parce que c'est possible. La souffrance fait partie du quotidien, c'est impossible de l'éviter. Et la souffrance fait partie des grandes questions de la vie humaine. Pourquoi ? Et d'ailleurs, les non-chrétiens ne manquent pas à poser la question si Dieu existait, pourquoi ? pourquoi il permet tous ces malheurs, toutes ces souffrances. Et la question, elle est aussi pour le chrétien. Pourquoi ? Pourquoi, Seigneur, tu permets ça avec tes enfants ? Alors, c'est une question. La souffrance, elle pose la question du pourquoi. Pour le chrétien persécuté, la souffrance, c'est le prix à payer pour suivre Jésus dans un monde qui le rejette. Mais la souffrance peut aussi être causée par notre propre péché. Celui-ci non plus, ne le minimisons pas, et sachons le reconnaître. Parce que la souffrance vient de notre péché. Et la souffrance peut aussi venir parce que nous vivons dans un monde déchu, un monde terni par le péché. Et si nous voulons vivre une vie qui plaise à Dieu, la souffrance, c'est difficile, la souffrance est là. Et ça sera le cas jusqu'à ce que, tant que Christ n'est pas revenu, jusqu'à ce que Christ revienne. Alors le pourquoi, ça reste un mystère. Pourquoi ? Pourquoi la souffrance ? Mais si ça reste un mystère, nous avons une autre question que nous pouvons, même si nous n'avons pas la réponse au pourquoi, nous pouvons au moins poser la question comment ? Comment réagir face à la souffrance ? Chacun à son niveau. Quelle attitude adopter lorsque la souffrance arrive, lorsqu'elle se manifeste ? Comment éviter l'amertume, la déception, le désespoir ? Si je demandais si quelqu'un n'a jamais ressenti de l'amertume, de la déception, peut-être du désespoir, je ne sais pas s'il y aurait des réponses positives. En tout cas, la Bible nous apporte des éléments de réponse et on va prendre le psaume 13 qui a été écrit par David, qui va nous donner des clés pour justement passer de l'amertume à la joie. Le psaume 13, donc il a été écrit par David probablement lors d'une des multiples occasions où Saül avait tenté de le tuer. Et il était bien placé pour en parler. Donc prenons le psaume 13, pas beaucoup de versets, 6 versets, mais qui vont nous donner des clés pour, nous allons le voir, pour exprimer notre souffrance, pour ne pas laisser l'amertume s'installer et pour arriver à la joie et la grâce que notre Seigneur nous offre. Donc toute une progression qui est dans ce psaume, psaume 13. Donc je vais le lire, je vais l'afficher aussi. Et avant ça, je vais prier. Seigneur, je te remercie parce que tu es là, Seigneur, et je te prie de nous ouvrir le cœur et l'intelligence, Seigneur, pour te voir, Seigneur, dans chacun, dans les difficultés que nous traversons, plus ou moins fortes, Seigneur, chacun à son niveau. Que ta parole, Seigneur, nous fortifie, Seigneur, et nous aide aussi à ne pas oublier tous ceux qui souffrent, qui attendent nos prières, Seigneur. Merci au nom de Jésus. Amen. Psaume 13. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage ? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur ? Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi ? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. En effet, mon ennemi pourrait dire « Je l'ai vaincu ». Et mes adversaires se réjouirent en me voyant ébranlé. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. Amen. De l'amertume à la joie. David l'a vécu. Il est possible, effectivement, de passer de l'un à l'autre. Comment ? Mais c'est ce que je vous propose de voir en trois points. Premièrement, nous verrons qu'on peut passer de l'amertume à la joie en exprimant notre souffrance, nos plaintes à Dieu. En exprimant notre plainte à Dieu. Jusqu'à quand, Seigneur ? Il le fait 4 fois, le psalmiste. Deuxièmement, en nous attendant au secours de Dieu. En nous attendant au secours de Dieu, en lui demandant son aide. Regarde, réponds-moi. Et troisièmement, en trouvant notre joie. Où ça ? En Dieu. En Dieu. Moi, j'ai confiance en ta bonté. La joie, elle est en Dieu. C'est ce que je vous propose de voir en 3 points. Premièrement, en exprimant notre plainte, jusqu'à quand, Seigneur ? Je ne sais pas si vous vous sentez à l'aise d'exprimer vos craintes, vos plaintes à Dieu. Ah, c'est pas bien de se plaindre, parce que parfois on a des scrupules. Alors, on va bien voir qu'il y a... Oui, il est bon de se plaindre, ce psaume nous apprend comment nous plaindre, mais sans en rester à notre plainte. Il y a une progression. Versets 2 et 3, David, il épanche son cœur devant Dieu. En quatre plaintes, des plaintes qui sont directes et qui peuvent même nous sembler à la fois audacieuses et même accusatrices contre Dieu. Mais honnêtement, est-ce qu'on n'a pas eu déjà ces plaintes? Est-ce qu'on n'a pas parfois adressé ce genre de plaintes à Dieu? C'est bien là la force du livre des psaumes. Un chrétien persécuté a écrit ceci, il a commenté le livre des psaumes, voici ce qu'il dit. Le livre des psaumes est l'un des livres les plus lus et les plus appréciés de la Bible. Alors que la plupart des textes bibliques nous parlent, les psaumes parlent pour nous. Alors que la plupart des textes bibliques nous parlent, les psaumes parlent pour nous. Ils expriment nos sentiments les plus profonds. Les psaumes sont là pour qu'on puisse se retrouver. Et il y a suffisamment de situations où on peut effectivement se retrouver. David a souffert, Job a souffert, d'autres ont souffert, vous avez souffert. Mais honnêtement, eh bien, dans les personnes de la Bible, ils ont tous un point commun, David, Job. C'est qu'ils ont été honnêtes avec Dieu, ils ont exprimé leur souffrance à Dieu, leurs tourments et leurs questions. Job, dans son livre au chapitre 7, verset 11, dit ceci. Job 7, 11, « C'est pourquoi je ne me retiendrai pas. Je parlerai dans la détresse de mon esprit. Je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. » Job ou David ne cherchaient pas à minimiser leurs plaintes, leurs souffrances. Ils ne cherchaient pas à garder pour eux leurs souffrances, leurs émotions. Au contraire, ils ouvraient leur cœur. Ils ouvraient leur cœur à qui ? À Dieu. Ils ouvraient leur cœur avec vérité. Parce que sinon, on n'est pas dans la vérité. Si on dit tout va bien, c'est magnifique. C'est pas la vérité, mais nous sommes appelés à être dans la vérité. Lorsque tout ne va pas bien, disons-le à Dieu. Pourquoi est-ce que eux, Job, David et tant d'autres, pouvaient exprimer leurs émotions avec autant de confiance, autant d'audace ? Eh bien, parce qu'ils avaient une relation proche avec le Seigneur. Une relation d'amitié, il pouvait vraiment tout lui dire. Et nous pouvons, nous aussi, les imiter. Alors, le premier pas vers la guérison, lorsque nous avons de l'amertume, c'est d'identifier et de reconnaître nos sentiments. La réalité de ce que nous éprouvons, ça peut être des sentiments de haine, des sentiments de envers celui qui nous a fait du mal, ça peut être des sentiments d'incompréhension, de la déception, de la déprime. Identifions-les. Mettons un nom dessus, reconnaissons-les et apportons-les au Seigneur. C'est déjà le début de la guérison. C'est un lâcher-prise, finalement. Parfois, vous savez, la rancune a des places. Celui-là, celle-là, je m'en veux. Mais ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Il nous demande de lâcher-prise. Et pour lâcher-prise, il faut reconnaître nos sentiments. Alors David, il exprime quatre jusqu'à quand ? Quatre plaintes. Qui identifie ses sentiments douloureux et qui l'exprime à Dieu. Il exprime à Dieu le sentiment d'être abandonné, oublié de lui. Il exprime à Dieu le sentiment d'être rejeté, privé de sa présence. Il a été abandonné, il sent loin, il pense que Dieu est loin. Il exprime à Dieu le poids des soucis et des chagrins qui remplissent son âme. Parce que vous savez, des soucis, moi j'en ai parfois, et ça m'empêche de dormir. Amenons-les à Dieu. Et il exprime à Dieu sa crainte d'être maltraité et humilié par les autres. Sa crainte que les autres disent « ça y est, on l'a vaincu ». Il exprime tout ça à Dieu. Alors, quand on souffre, c'est facile de se sentir seul, loin de Dieu, et de se laisser gagner par le mensonge que Dieu nous a abandonné. Dieu nous a oublié. C'est un mensonge. Et les chrétiens persécutés expriment aussi honnêtement ce sentiment, comme le jeune Traoré du Burkina Faso, qui était avec son père lorsque celui-ci a été assassiné par les Peuls. Voici ce qu'il dit. J'ai parfois l'impression que Dieu m'a abandonné. Mais quand je lis la Bible, je me rends compte qu'il est avec moi depuis le début. Je pensais que Dieu ne se souciait plus de moi, mais il m'a soutenu durant ma souffrance. Il a réalisé que Dieu n'était pas loin, il était avec lui dans sa souffrance. Alors comme David, comme Traoré et tant d'autres, eh bien, n'ayons pas peur d'exprimer nos sentiments à Dieu. Nos différents sentiments qu'on peut traverser, ça peut être la solitude, ça peut être le sentiment d'être abandonné, incompris, le sentiment de rejet, et c'est pas toujours un sentiment, c'est parfois la réalité, dans le travail, ça peut être aussi, par exemple, le sentiment de crainte aussi, la peur. Qui d'entre nous n'a jamais connu la peur? C'est aussi un sentiment à apporter à Dieu. Lorsque nous souffrons, on a le choix. On peut être dans le déni. On peut choisir d'ignorer ou d'oublier notre souffrance. C'est très facile, mais ça ne règle pas le problème. Certains choisissent d'ignorer leur souffrance en se plongeant dans les plaisirs, des plaisirs éphémères. Ça peut être l'alcool, la drogue, ça peut être... La tentation, même si les chrétiens ne généralisent pas, mais la tentation peut être là. D'autres aussi peuvent se réfugier dans le travail. Ah, quand je travaille, je ne pense plus à mes soucis, je ne pense plus à mes problèmes. Est-ce que ça règle le problème? Non, ça ne règle pas le problème. D'autres peuvent se plonger dans la réussite personnelle, professionnelle. Non, ce n'est pas ce que préconise Dieu. Il préconise plutôt de lui exprimer ce qui ne va pas, nos sentiments, crainte, rejet, amertume, colère, haine. Et c'est comme ça qu'on pourra éviter le cercle vicieux de la souffrance et de l'amertume. La souffrance entraîne l'amertume entraîne la souffrance. Parce que si nous gardons l'amertume en nous, si nous ne les avons pas déposées au pied du Seigneur, qu'est-ce qui risque de se passer? Il risque de s'enraciner dans nos cœurs, d'y prendre racine. Et les racines d'amertume, qu'est-ce que ça produit? Ça produit des fruits amers, ça produit des fruits de colère, d'insatisfaction, de frustration, ça produit des conflits avec les autres, et ça produit encore davantage de souffrance. C'est un cercle vicieux, non seulement dans nos vies, mais dans celle de la vie de ceux qui nous entourent. Et l'Épître aux Hébreux nous met en garde contre l'amertume. Hébreux 12, verset 15 nous dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. » C'est la grâce de Dieu, méritée, qui va nous aider à rejeter l'amertume. Alors lorsque nous souffrons, quelle attitude? Eh bien, ne soyons pas dans le déni, n'essayons pas de noyer nos souffrances dans un activisme effréné. Lorsque nous souffrons, accueillons nos souffrances, reconnaissons-les. Accueillons nos souffrances, pas pour les garder, mais pour les déposer au pied de la croix, pour les exprimer à Dieu dans la prière. Accueillons nos souffrances, remettons-les à Dieu dans la prière, et Dieu nous accueillera. Il nous accueillera grâce à Jésus-Christ. La séparation a été enlevée pour le croyant. Il n'y a plus de séparation. On peut s'approcher de Dieu. Jésus, il nous comprend parce qu'il a souffert. Il a souffert la plus grande souffrance qui soit, à la fois physique et émotionnelle, d'être abandonné de son Père. Il a souffert pour nous à la croix et il accompagne tous ceux qui souffrent. Et il accompagne tous ceux qui lui ouvrent leur cœur. Jésus a porté non seulement nos péchés, mais il a porté aussi nos souffrances. La deuxième partie du psaume, eh bien, c'est là qu'il y a une progression. On ne reste pas dans la plainte. On quitte le registre de la plainte pour entrer dans une phase plus active. Le psalmiste, là, il fait des demandes à Dieu. Il va exprimer ses besoins à Dieu. Regarde, réponds-moi. Là aussi, il y a deux attitudes. On peut chercher à se cacher de Dieu. Ce n'est pas ici l'attitude du psalmiste. Il s'expose au regard de Dieu. Il veut que Dieu le regarde. Regarde, regarde, réponds-moi. Verset 4. Il ne se soustrait pas à son regard. Et on peut presque l'entendre crier à l'Éternel. On peut presque l'entendre crier comme un enfant crierait envers son père. C'est vraiment l'image d'un enfant. Un enfant qui crie, qui désire plus que tout la protection de son père. L'attention inébranlable. Papa, regarde, regarde ce qu'ils font. David, là, il nous apprend une grande leçon, c'est qu'on ne peut pas se sortir tout seul de la souffrance. Et les autres chrétiens persécutés, ils l'ont vécu aussi. David sait qu'il ne peut rien sans l'Éternel. Et lorsqu'on se retrouve face à l'amertume, face au danger, le danger, face à la souffrance, le danger, c'est de se replier sur soi et de vouloir s'en sortir tout seul. Mais c'est un leurre de croire qu'on peut s'en sortir tout seul. Et parfois, ça peut même conduire à de graves erreurs de vouloir tout gérer tout seul. Eh bien, la prière de David nous enseigne justement à ne pas chercher à résoudre les conflits tout seul. Ayouba, vous avez vu son témoignage tout à l'heure. Il a vu son père qui avait été assassiné. La solution était simple. Qu'est-ce qu'il avait envie de faire pour aller mieux? Il lui fallait se venger. Il fallait tuer les personnes responsables de la mort de son père, directement ou indirectement, ceux qui ont été en cause dans la mort de son père. Mais qu'est-ce qu'il a, son témoignage, si vous vous rappelez, qu'est-ce qu'il a aidé à éviter ça? Eh bien, il a expérimenté que recevoir de l'aide était bien plus efficace que de vouloir gérer tout seul le problème. Recevoir de l'aide était bien plus efficace pour guérir et pour trouver réellement la paix. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il est allé dans un centre des partenaires de Porte Ouverte, qui s'appelle Shalom, paix. Il est allé dans un centre qui font des soins post-traumatiques, pour y recevoir des soins post-traumatiques, pour être accompagné. Et il le dit dans son témoignage, ça l'a beaucoup aidé à chasser l'amertume. Et il a dit même qu'il a pardonné. Il a cherché à être accompagné. Donc l'aide qu'il a reçue l'a transformé. Demander de l'aide à Dieu doit être notre priorité. Et ça peut aussi passer par l'aide des frères et sœurs. Nous avons besoin du Seigneur, pas seulement quand ça ne va pas. Si déjà on a besoin du Seigneur chaque jour qu'il nous donne, à plus forte raison on a besoin de lui quand ça ne va pas, quand on souffre, quand la souffrance nous ronge. Une autre clé que le psaume nous donne pour faire face à la souffrance, eh bien, c'est de demander la lumière, l'éclairage de la vérité. Après avoir cherché la présence de Dieu, David y recherche, il lui demande de lui donner sa lumière. Donne la lumière à mes yeux. Et cette notion de lumière, elle nous éclaire. Parce que grâce à la lumière de Dieu, qu'est-ce qui se passe? David comprend mieux ce qui se passe. Il comprend mieux ce qui se passe. On va enlever les intrus. Et parfois, eh bien, quand on est seul avec nos souffrances, on essaie de comprendre, de trouver les causes, mais on a besoin de la lumière du Seigneur. Non seulement pour comprendre ce qui se passe, mais pour avoir la bonne attitude. Et David demande à Dieu de l'éclairer, de lui donner la lumière à ses yeux. David demande à Dieu de voir la situation comme lui la voit. Dieu a une perspective éternelle, infinie. Nous, parfois, nous voyons juste à aujourd'hui. Nous ne pouvons pas voir ce qui va se passer demain. Nous savons aussi ce qui s'est passé hier. Demander la lumière à Dieu, c'est demander sa perspective à lui. Parce que notre perspective humaine, elle est limitée. Tandis que la vision de Dieu, elle est toujours pleine, elle est parfaite. Et puis la lumière de Dieu, eh bien, elle chasse les ténèbres. Elle chasse les ténèbres des épreuves que nous traversons quand on se sent dans la nuit. Eh bien, demandons la lumière à Dieu pour chasser nos ténèbres. Et quand on demande la lumière à Dieu, eh bien, on le voit agir. Parfois, on ne le voit pas agir, mais de lui demander de nous éclairer, on va voir sa main agissante dans les épreuves que nous traversons. Et l'obscurité des ténèbres va diminuer, va s'éloigner. Les yeux sont considérés comme le reflet de l'âme. Regardez la prière de Paul pour ses frères et sœurs en Éphésiens 1, 17 à 19. Je vous lis sa prière. Je vous lis ce qu'il dit, oui, sa prière. Éphésiens 1, 17 à 19. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. On a besoin qu'on prie pour nous de cette manière-là parce qu'on ne voit pas toujours Dieu agir. Et la prière de Paul, c'était que Dieu ouvre les yeux aux frères et sœurs pour qu'ils aient l'espérance. Voilà, donc demander la lumière à Dieu, la lumière de Dieu dans nos vies, eh bien, ça va nous aider à avoir sa perspective sur la situation. À ne pas oublier qu'il est souverain. Il est souverain sur nos vies, quoi qu'il se passe. De bien ou de mal. Même quand on avance au milieu des ténèbres. Demander sa lumière va aussi nous aider à garder l'espérance. Parce qu'il en faut, n'est-ce pas, l'espérance pendant les épreuves. Et puis, qu'est-ce que David demande à Dieu? Il demande à Dieu de ne pas sombrer dans le sommeil de la mort. C'est sombrer. De ne pas sombrer dans le sommeil de la mort. On pense à quoi avec cette expression, le sommeil de la mort? On pense à la dépression. La dépression. C'est une image, le sommeil de la mort, qui est assez parlante, qui peut même être effrayante. Hein, et David a peur de ça, et il l'exprime à Dieu. Il a peur de glisser dans le vide du désespoir et de la dépression. Et cette crainte, eh bien, elle est légitime. N'ayons pas peur de l'exprimer à Dieu. Cette crainte, elle est légitime parce que si on reste dans l'obscurité, ça peut être dangereux. Et pour ça, prenons l'exemple d'un bateau qui navigue à vue, de nuit, par temps brumeux. Il risque gros. S'il n'y a pas un phare pour l'éclairer, il risque de heurter un récif et de s'échouer. Eh bien, sans la lumière de Dieu pour nous éclairer, nos âmes peuvent se noyer, hein, c'est vraiment l'image, nos âmes peuvent se noyer dans la brume du désespoir et de l'amertume, et dans la dépression et dans la souffrance. On a besoin de lumière. Rester dans l'obscurité, c'est dangereux. N'y restons pas, demandant à Dieu sa lumière. Voici maintenant le témoignage de Marie, une jeune Nigérienne qui avait toutes les raisons de sombrer dans le sommeil de la mort. Elle a subi des traumatismes qui, à vue humaine, pourraient nous briser définitivement. Et Marie et sa famille voulaient que son histoire soit entendue. Elle le voulait, elle racontait son histoire. Pourquoi ? Pour encourager ceux qui passent par les mêmes souffrances. Ceux qui souffrent ou qui ont souffert pareillement, mais qui souffrent en cachette. Et elle voulait raconter son histoire. Et ce qu'elle voulait nous dire, comme David, c'est que personne ne doit rester seul dans des épreuves, dans des moments de souffrance. Personne ne doit être seul face à la persécution et aux traumatismes qui y sont liés. Quand la persécution est là, personne ne doit rester seul. Voilà ce qui lui est arrivé. Marie avait 20 ans, donc c'est un pseudonyme, hein. Elle avait 20 ans, donc une Nigériane. Je dis « elle avait » parce qu'elle est décédée suite à une intervention chirurgicale. Mais entre-temps, vous allez voir ce qui lui est arrivé. Marie, elle avait 20 ans lorsque des militants Peul ont attaqué l'église dans laquelle elle se trouvait. Elle a été retenue captive pendant 54 jours. Elle a subi des viols répétés, violences sexuelles. Elle a été forcée de cuisiner pour ses agresseurs, elle-même ayant une nourriture qu'on donnait aux animaux. Mais plusieurs fois, Marie a vu la main de Dieu à l'œuvre. Et plusieurs fois, Marie a vu Dieu agir puissamment dans sa vie et dans celle des autres femmes qui étaient détenues avec elle. Voici ce qu'elle dit. « Un homme avait une arme et était prêt à nous abattre toutes », se souvient-elle. « Je n'arrêtais pas de prier dans ma tête et pour une raison inconnue, l'homme est parti et nous a laissés seuls. Je sais que Dieu est intervenu. » Un jour, un des peuls est venu s'asseoir à côté de Marie. Et elle s'est sentie obligée de lui demander s'il réalisait le mal qu'il faisait. C'est une bonne question ça, mais est-ce que tu te rends compte du mal que tu fais? Et voici ce qu'elle dit sur sa réponse. Il a répondu que tous savaient que ce qu'il faisait était mal. Tous le savaient, mais qu'il ne pouvait pas arrêter. Il ne pouvait pas arrêter. Alors Marie, voici ce qu'elle dit, « Je lui ai dit qu'il y avait bien un moyen d'arrêter. Si vous donnez votre vie à Jésus, il vous pardonnera et vous pourrez arrêter toutes ces choses que vous faites. » C'est que la grâce qui peut interrompre ce cercle de violence. Et Marie était courageuse. Elle voulait partager l'évangile avec ceux qui la faisaient souffrir. elle a partagé l'évangile avec deux autres de ses ravisseurs en sachant le danger qu'elle encourait. Malheureusement, ils n'ont pas du tout été réceptifs. Mais Marie est tout de même restée fidèle dans la prière. Et elle a eu raison. Voici ce qu'elle dit. « J'ai continué à prier dans mon cœur pour que Dieu nous sauve de cet endroit. Car personne d'autre ne peut nous sauver. Seule sa puissance et sa grâce peuvent nous sortir de là. » Eh bien, les prières de Marie ont été exaucées. Voici ce qu'elle dit. « Dieu l'a vraiment fait. Je remercie Dieu qui m'a sauvée et m'a ramenée à la maison. J'aime vraiment Dieu. Toutes les femmes ont été libérées. » Amen, alléluia. Elle a été libérée, elle ainsi que toutes les autres détenues. Alors oui, Marie, avec tout ce qu'elle a subi, il y a eu du traumatisme, des traces qui lui sont restées. Et la douleur du traumatisme ne l'a jamais vraiment quittée. Mais ça ne l'a pas empêché de louer le Seigneur pour qui il est et pour ce qu'il a fait, en la gardant du désespoir, en lui donnant une paix intérieure au travers des pires souffrances. Et on va encore y revenir, justement. Oui, Marie, entre-temps, eh bien, après sa libération, elle est décédée, elle a eu une intervention chirurgicale. Alors oui, le psaume, il y a une progression dans le psaume. Après avoir identifié les émotions négatives et les avoir déposées à Dieu, après avoir demandé à Dieu sa présence, qu'est-ce qui se passe? Comment se poursuit le psaume? Eh bien, il peut dire, moi j'ai confiance en ta bonté. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel contraste entre ce dernier verset et le début du psaume. Alors on peut croire que ce n'est pas bien après que David ait été délivré de ses épreuves qu'il s'est mis à louer le Seigneur. Ce n'est pas bien après, c'est pendant les épreuves. C'est pendant les épreuves, c'est au cœur même de son épreuve et de sa souffrance, et pas après que David a été capable d'écrire cette magnifique louange. Moi, j'ai confiance en ta bonté. Et qu'est-ce que ça nous apprend finalement? Qu'est-ce que David nous apprend? Il nous apprend cette grande vérité, vérité très profonde, que notre joie ne doit pas dépendre des circonstances. Notre joie et notre paix ne sont pas conditionnées par nos circonstances ou celles des autres. Qui d'entre nous n'aspire pas à une vie tranquille, à défaut d'être sans problème, une vie où les problèmes se règlent, qui ne durent pas longtemps, parce que les enfants aspirent de bonnes choses de leurs parents? C'est tout à fait légitime, n'est-ce pas? Et nous aspirons des bonnes choses de notre Père Céleste. C'est aussi ce qu'attendait David. Mais ce n'est pas ça qui doit être le fondement de notre foi. Ce n'est pas les circonstances qui doivent être le fond. Tout va bien, donc j'aime Dieu. Tout va pas bien, là, qu'est-ce que Dieu fait? Non, ce n'est pas ça. Parce que si notre reconnaissance, notre humeur et notre amour sont fondés uniquement sur la réponse de Dieu à nos prières, alors c'est qu'on a un problème. C'est que nous avons un problème. Notre amour pour Dieu ne doit pas uniquement être conditionné à la réponse, à sa réponse à notre prière. Et David l'exprime, notre joie et notre reconnaissance doivent être pour lui, pour que, qui Dieu est. C'est lui-même Dieu qui doit être notre bonne nouvelle et non pas ce qu'il a fait pour nous. Évidemment, il a fait pour nous de grandes choses. Il a accompli le salut pour nous. Et bien sûr, ça, c'est une des raisons profondes à notre joie. Mais lorsque ça ne va pas, c'est lui qui doit être, sa présence qui doit être notre bonne nouvelle. C'est lui notre évangile. C'est lui l'évangile. Dieu est l'évangile, pour reprendre le titre d'un livre de John Piper. Dieu est, du verbe être, l'évangile. Et si nous avons cette attitude, eh bien, dans ce cas-là, qu'est-ce que nous pourrons faire? Eh bien, nous pourrons chanter à Dieu en toute situation. Et c'est ce que quelqu'un a fait. Je vais y revenir. Les chrétiens persécutés, beaucoup ont vécu cette situation de chanter à Dieu en n'importe quelle circonstance et dans la persécution. Et beaucoup, il y a de nombreux témoignages de chrétiens qui ont ressenti une joie profonde. Pourquoi? Parce que Jésus était à leur côté. Alors même qu'il traversait de grandes souffrances physiques ou émotionnelles. Et Awel, il en est un exemple frappant. C'est un chrétien éthiopien, Awel. Et il est sorti du désespoir et de la déception lorsqu'il a réalisé quel était le but de son existence. Quel était le but de son existence? Eh bien, c'est aimer Dieu par-dessus tout et le louer, quelles que soient les circonstances. Aimer Dieu par-dessus tout. et le louer, quelle que soit son existence. Et il en a fait l'expérience à Well. Il a appris à louer Dieu en toutes circonstances. Et pourtant, les circonstances n'étaient pas favorables pour lui. Il a passé 15 ans de sa vie en prison. Mais ce furent 15 années de paix dans le Seigneur. Malgré les tortures, il n'a jamais connu la dépression. Et il a supporté avec joie son emprisonnement, parce qu'il désirait montrer qu'il était un témoin vivant et fort de Jésus-Christ. C'est après que les problèmes ont commencé. C'est après sa libération. Ça peut surprendre. Mais c'est une fois sorti de prison que Awel s'est retrouvé désorienté et même déprimé, parce qu'il n'était pas préparé à vivre ce qu'il allait vivre. Effectivement, sa femme et ses enfants ne l'attendaient plus après 15 ans et avaient continué leur vie sans lui, de même que ses amis qu'il avait abandonnés. Et là, il a commencé à rentrer dans une phase de dépression qui ressemblait à de la dépression. C'était la confusion dans sa tête. Et il se disait dans son témoignage, « Qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 15 ans de prison ? Est-ce que ma vie a encore un sens ?» Il était déçu, il doutait de ses capacités. Et il s'est mis même à douter de la bonté de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il avait traversé pendant 15 ans en prison ? C'était pas rien. C'était justement, ça aurait pu lui causer la dépression. Mais c'est pas là qu'il a déprimé. Alors qu'est-ce qu'il a fait pour éviter que le désespoir et l'amertume s'installent ? Eh bien, il a compris le plan de Dieu pour lui. Pour lui et pour la vôtre, pour le vôtre et pour le mien. Le vrai sens de son existence, et de notre existence, eh bien, il est dans le premier et le plus grand commandement que Jésus a rappelé. C'est celui d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, de toute notre pensée. Cette grande vérité, c'est d'aimer Dieu plus que ses bénédictions. Est-ce que nous désirons simplement, Seigneur, bénis-moi, et puis quand tout va pas, quand ça va pas comme on veut là, on sent que Dieu est loin? Mais si nous aimons Dieu pour qui il est, on sera gardé contre la dépression. Jésus le dit, rappelons-nous le plus grand commandement. Jésus le rappelle en Matthieu 22, versets 37 et 39 à 39. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le premier commandement, aimer Dieu. D'abord pour qui il est, et pas seulement pour ce qu'il nous donne. Alors oui, c'est aussi ce premier commandement, et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même, un encouragement à aimer les autres, à aider les autres. Et nous, qui ne subissons pas la persécution comme nos frères et sœurs, il y a une chose que nous pouvons faire. Et ne sous-estimons pas cette chose, c'est de prier pour eux, parce qu'ils attendent nos prières. Aimons-nous les uns les autres, prions les uns pour les autres, pour nos frères et sœurs qui sont persécutés. Et puis, prier pour ceux qui sont dans l'amertume nous aidera nous-mêmes à sortir de notre amertume. Prier pour ceux qui sont dans l'amertume nous fera sortir de notre propre amertume, quand on se décentrera de nous-mêmes. Ça nous aidera à grandir. Notre église ici, et les églises au Nigeria, ou en Éthiopie, ou en Corée du Nord, sont la preuve que le sort des croyants n'est pas le même. N'est pas le même pour tous. C'est Dieu qui décide. Certains croyants gravement malades sont guéris en réponse à de ferventes prières. Pour d'autres, malgré des prières non moins ferventes, la maladie s'aggrave et ils meurent. Certains missionnaires ont été protégés miraculeusement par Dieu. Ils ont échappé à leurs ennemis. Et ils poursuivent leur service. D'autres ont été cruellement massacrés, sans que Dieu intervienne. Et leur service a pris fin. Et la Bible, l'Épître aux Hébreux, est là pour justement qu'on ne soit pas étonné face à cette réalité. Le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux, eh bien, c'est la vie des héros de la foi. Et leur vie, elle était bien différente pour certains. Elle n'est pas la même pour tous. Le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux retrace la vie de ces hommes de foi, ces hommes, et on y retrouve ce même principe. Certains subissent, d'autres pas. Dans le même chapitre, certains échappèrent au tranchant de l'épée, alors que d'autres moururent par l'épée, versets 34 et 37. Je pourrais vous donner les références si vous voulez. Certains héros de la foi, comme Samson, comme David ou comme Daniel, remportèrent des victoires extraordinaires, à vue humaine, qui sont extraordinaires. C'est Dieu qui leur a donné la victoire, grâce au secours divin. Je vous donnerai les références si vous voulez. Juge, 1 Samuel, Daniel. D'autres, en revanche, furent offerts en spectacle dans les arènes et dévorés par les lions à cause de leur foi. C'est aussi une réalité que certains chrétiens ont souffert. Certains, comme les amis de Daniel, éteignirent la force du feu, la fournaise, alors que d'autres chrétiens ont connu le bûcher pour leur témoignage, comme martyrs de la foi. Certains et d'autres. Pourquoi ? Est-ce que ça veut dire que les uns ont eu plus de foi que les autres ? Non. Non. C'est que Dieu a un projet différent pour chacun, qu'on ne comprend pas forcément à vue humaine, mais il est souverain. Ça peut nous paraître incompréhensible. Ce sont des réalités, là encore. Mais une chose que nous devons nous rappeler, c'est que Dieu nous aime. Il fait tout à merveille. Et rappelez-vous le témoignage de Ayouba, même s'il mourait, il sait qu'il est auprès de Dieu. Ça ne lui faisait pas peur. Alors oui, des chrétiens qui ont subi des sorts différents. Et malgré des sorts aussi différents, qu'est-ce qui unit ces chrétiens de tous âges et dont nous faisons partie ? Eh bien, c'est la foi. La foi dans le Dieu d'espérance et dans ses promesses de résurrection. Hébreux 11, 35. Leur but et leur espérance sont tournés vers le ciel. Nous ne sommes que des voyageurs sur cette terre. D'où ils attendent le Seigneur Jésus au ciel. Alors oui, le plus important, c'est de se rappeler que Jésus est toujours là. Le plus important, c'est de retrouver le chemin de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, mort à la croix pour nous et ressuscité. Jésus a souffert au travers de ses propres souffrances, de sa propre solitude, de son abandon par le Père à la croix. Eh bien, notre Seigneur Jésus nous comprend et il est le seul capable de nous relever, de nous offrir une joie profonde, entière, pure, indépendante des circonstances. Il a payé cher pour ça. Il a payé de sa vie à la croix pour nous offrir cette grâce. Cette joie, une joie surnaturelle. Jésus, déterminé à nous sauver parce qu'il nous a aimés le premier d'un amour infini et insondable. Revenons à Hawel. Il avait fait le choix de louer Dieu en toutes circonstances. Il avait accepté les frustrations, il les a remises à Dieu et il a pu recommencer à vivre pour Dieu. Après cette phase de dépression, voici ce qu'il déclare. Je vous lis son témoignage. Et ça reprend effectivement les idées de Hébreux 11. Quand je suis persécuté, je me dis que cela vient de Dieu. Et quand Dieu me délivre, cela aussi vient de lui. Dieu est bon en toutes choses. Donc, quand la persécution vient, je chante. Et quand Dieu me délivre, je chante aussi. J'ai un chant pour chaque circonstance. C'est un miracle pour moi. J'ai perdu tant de choses. Ma femme, mes enfants, mes biens. Et encore aujourd'hui, tant de persécutions m'entourent. Mais je suis heureux. Je me réjouis à cause de Christ. Tout ce que j'ai perdu est de ce monde. Mais ma joie est au ciel, dans ce qui est éternel. La plus belle des guérisons est la guérison de l'âme. Fin de citation. Avons-nous un chant pour louer Dieu en toutes circonstances ? Lui, il avait choisi un chant pour toutes circonstances. Les circonstances les plus favorables, les circonstances les plus douloureuses. Jésus est toujours là, et c'est par lui seul que nous pouvons passer de l'amertume à la joie. Et pour terminer, voilà un exemple de prière de quelqu'un qui a connu Mehdi Dibage, chrétien iranien emprisonné, torturé et condamné à mort en raison de sa foi. Et voici ce qu'il dit. Et je vous invite à terminer par la prière. Seigneur, je te remercie encore parce que tu nous éclaires, Seigneur. Nous ne devons pas être surpris, Seigneur, lorsque les choses arrivent et que nous ne comprenons pas à vue humaine. Mais aide-nous à te faire confiance en toutes circonstances. Tu nous dis de t'aimer, Seigneur, de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme. Oui. Que tu sois toujours l'objet de notre plus grand amour. Tu nous demandes de t'aimer en esprit et en vérité. Tu nous as laissé ta parole pour te connaître, connaître ton caractère. Tu es bon, tu es amour, tu es lumière, tu es bienveillance, tu es patient, tu es lent à la colère, riche en bonté, en miséricorde. Et tu l'as montré en Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous. Seigneur, merci de nous aider lorsque des difficultés arrivent à ne pas te perdre de vue, à focaliser sur toi, Seigneur, et à traverser nos épreuves, Seigneur, victorieusement avec toi, en te faisant confiance, quelle que soit l'issue des épreuves. Seigneur, c'est avec toi que nous pouvons effectivement être victorieux. Garde-nous, Seigneur, oui, de nous replier sur nous-mêmes, mais merci de nous garder, Père, dans ton amour. Oui, Seigneur, je redis cette prière qu'Avdit médite. C'est aux humbles que Dieu accorde sa grâce. C'est dans le feu que l'or est purifié. C'est le polissage et la taille qui rendent le diamant brillant. C'est à haute température que la rouille du pot est brûlée. C'est par la porte étroite que nous entrons dans le royaume des cieux. C'est dans de très grandes épreuves que naissent les hommes et femmes de Dieu. Oui, Seigneur, fais de moi, fais de nous, Seigneur, ceux qui veulent. Des hommes et des femmes de Dieu, Seigneur. Au nom de Jésus, amen. Justement, je propose pour terminer, enfin, c'est pas tout à fait terminé, mais pour conclure le message, de prendre le numéro 134 qui dit « Bénis Dieu, mon âme ». C'est un chant qui nous encourage à bénir Dieu en tout temps.